Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le hameau du Auvernais complètement bouclé ce matin pour une mise en situation de la disparition du petit Émile. Il y a près de 9 mois, sorte de reconstitution pour vérifier la cohérence des témoignages des 17 personnes présentes ce jour-là. Gabriel Attal veut une nouvelle réforme de l'assurance chômage et désmicardiser la France. Et puis une nouvelle affaire de proviseur harcelé et menacé de mort pour avoir tenté de défendre la laïcité.
Que s'est-il passé le 8 juillet 2023 au Auvernais?
En fin d'après-midi, ce jour-là, le petit Émile, 2 ans et demi, disparaissait. Près de 9 mois plus tard, les habitants du hameau des Alpes de Haute-Provence vont devoir revivre cette journée. Une mise en situation est organisée ce matin. 17 personnes présentes au moment des faits sont convoquées. Objectif, interroger leur mémoire et vérifier la cohérence de leurs témoignages. Une journée qui relance l'espoir de vérité chez les habitants de la région, comme Gilles qui a accepté de se confier au micro RMC de Julie Brou.
Depuis son balcon, Gilles observe le défilé des voitures de gendarmerie, une agitation qui lui rappelle une fois de plus le souvenir douloureux de la disparition du petit Émile.
Moi je pense toujours à cette maman qui a perdu son enfant. Je ne sais pas si le petit a disparu ou si le petit est décédé. Et ça c'est très dur pour nous parce qu'on va rester marqué. Mais tous les jours, quoi.
Une disparition aussi pesante que mystérieuse qui nourrit depuis des mois une ambiance très tendue entre les habitants du village.
Ça crée de la suspicion entre les gens du Vernet et ça nous met une certaine discorde entre nous, quoi. Donc on voudrait des réponses pour que l'on puisse commencer à retrouver une certaine sérénité.
Obtenir des réponses, c'est ce qu'il attend de cette mise en situation, une opération qui pourrait permettre de déceler des incohérences, selon lui.
Je pense qu'ils vont mettre les témoins, les gens qui étaient dans la rue, qui vont les mettre en situation et pour être sûr que tout ce qui a été dit coïncide.
Mais dans les rues du village, d'autres habitants ne partagent pas cet optimisme. Le visage fermé, ils avouent n'avoir plus aucun espoir d'un jour connaître la vérité.
Et à 7h10, un ancien gendarme et membre bénévole de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, Philippe Zankiewicz, sera l'invité d'Apolline sur RMC. Il est 6h33, une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour remplir les caisses de l'État. C'est la principale annonce de Gabriel Attal hier soir aux 20h de TF1, le Premier ministre qui envisage 3 leviers. Réduire la durée maximale d'indemnisation, augmenter le temps minimal travaillé pour bénéficier du chômage ou encore revoir tout simplement le niveau de l'indemnisation. Et il veut une entrée en vigueur dès l'automne, faire des économies, oui, mais sans toucher aux impôts des Français. Il a réitéré la promesse du président tout en désmicardisant le pays.
Il faut revoir le système des allègements de cotisations. Il faut avoir des allègements de cotisations qui incitent davantage à augmenter les salariés. On a confié une mission à 2 économistes qui vont nous faire des propositions au mois de juin sur le sujet. Et je souhaite que dans le prochain budget, il puisse y avoir des mesures. On a en France un SMIC plus élevé que celui de nos voisins. Mais on a plus de gens qui sont autour du SMIC que nos voisins. Vous avez beaucoup de gens qui restent coincés autour du SMIC parce que ça coûte trop cher à l'employeur de les augmenter et parce que le salarié y perd aussi. C'est ça qu'il faut changer.
Alléger les cotisations pour inciter les patrons à augmenter davantage les bas salaires. Une piste intéressante pour Bernard Cohen-Haddad, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France, à condition que ça s'inscrive dans la durée.
L'allègement des charges, ça fait partie d'une préoccupation de nos entrepreneurs et c'est pour nous le béaba de comment sortir de la spirale du maintien des SMIC. Encore faut-il que ces charges soient allégées dans la durée. Ce qu'il faut éviter, ce sont ce qu'on appelle les effets d'aubaine. C'est que uniquement pour quelques mois, un certain nombre de dispositifs vont être mis en place. Nous allons y répondre, mais sur la durée, ça ne permettra pas de revaloriser l'ensemble des salaires. Encore faut-il que la dynamique commerciale soit là, que les collaborateurs soient formés et que nous puissions aussi trouver des compétences.
Le Premier ministre qui a également remis le temps d'un instant son costume de ministre de l'Éducation pour revenir sur la polémique liée à la démission d'un proviseur parisien menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Il a annoncé que l'État allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève qui accuse le proviseur de violence. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle affaire éclate. Une chef d'établissement victime d'un raid numérique l'été dernier après l'exclusion d'une élève pour atteinte à la laïcité. Marion Dubreuil.
Oui, tout est parti d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux au printemps dernier. Une jeune fille explique avoir été victime d'une forme de harcèlement au sein du lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine qui a abouti à son exclusion, le tout parce qu'elle a, dit-elle, refusé de retirer ses vêtements islamiques. Dans cette vidéo, elle cible notamment sa proviseure dans des termes injurieux. La publication devient virale et suscite une vague de haine en ligne, à tel point que la préfecture du Val-de-Marne alerte la police le 11 juin dernier. Depuis, deux jeunes majeurs ont été identifiés pour avoir posté des messages menaçants et particulièrement violents à l'égard de cette chef d'établissement. Ils seront sur les bancs des prévenus et en cours jusqu'à 5 ans de prison.
Et ce procès se tiendra le 31 mai prochain.
Par ailleurs, notez-le dès à présent, ne manquez pas mon invité. À 8h30 tout à l'heure, ce sera Michaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty. C'est la première fois qu'elle témoigne, qu'elle s'exprime à la radio et à la télévision en direct. Elle sera donc là à 8h30.
6h36 sur RMC. La France pourrait devenir l'un des premiers pays à sanctionner les discriminations capillaires. Une proposition de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée et elle est très attendue, notamment des personnes aux cheveux texturés, Nicolas Ropert.
C'est dès l'école que Mila a entendu les premières réflexions sur sa coupe de cheveux afro.
Ah mais pourquoi c'est comme ça? On dirait de paillasson, on dirait de la pelouse, on a des réflexions bêtes.
Son amie Laura a même décidé de changer de métier, fatiguée des remarques de ses employeurs sur ses tresses africaines.
En général, c'est beaucoup dans la vente, ouais. On se fait discriminer sur la texture des cheveux. Et du coup, c'est pénible. On est né comme ça avec nos cheveux afro et je vois pas pourquoi être discriminant en fait.
Mais cette loi contre la discrimination capillaire ne concernerait pas seulement la communauté noire. Le député qui la défend cite aussi les hommes roux, les femmes blondes ou les chauves, victimes parfois de réflexions au travail. Cette nouvelle législation ne réglerait pas tout, prévient l'avocat Éric Roche-Blave, spécialiste du droit du travail.
Il faudrait prévoir les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux frisés, les cheveux lisses, les chauves, les moitiés chauves, les tondus, alors qu'une définition suffisamment large permet d'englober toutes les situations.
Surtout qu'aujourd'hui, rappelle l'avocat, 25 motifs de discrimination à l'embauche, dont l'apparence physique, existent déjà.
Et le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Aujourd'hui, le favori, c'est l'As Clavus et l'Outsider. C'est le numéro 13, Fashion Grey. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean, 6h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Une nouvelle réforme, encore la troisième en 3 ans sur l'assurance chômage. Gabriel Attal veut réduire la durée d'indemnisation pour accélérer, dit-il, le retour à l'emploi. Est-ce que ça marche? Vous êtes chômeur ou vous avez été au chômage? Est-ce que si on vous dit dans un mois c'est terminé, plus d'alloc, ça va vous inciter davantage à aller chercher un emploi? Venez témoigner au 32-16, on vous attend. On est avec Charles, Manu, Nicolas, Amélie, à tout de suite.
RMC Police-Justice.
Mais d'abord, l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ce matin, Guillaume, vous nous racontez l'arnaque dont a été victime un Montpelliérain. Il a vendu sa Rolex contre des fausses pièces d'or.
Oui, il croyait pourtant avoir pris des précautions pour sécuriser la vente, mais il s'est quand même fait avoir. La semaine dernière, sur Le Bon Coin, cet homme de 42 ans met en vente sa Rolex, prix affiché 13 000 euros. Rendez-vous est pris avec un acheteur qui lui propose 15 000 euros en pièces d'or. Le vendeur, méfiant, lui demande alors de bien vouloir l'accompagner chez un bijoutier pour authentifier ses pièces. Le commerçant confirme, ce sont des vraies pièces d'or. Alors le vendeur est rassuré, il remet donc sa fameuse montre, mais il ne s'aperçoit pas du tour de passe-passe habilement réalisé par l'acheteur qui échange discrètement les vraies pièces par des fausses. Une fois chez lui, le vendeur floué s'en rend compte et il décide alors de ne pas se laisser faire. Il recontacte l'arnaqueur et prétend qu'il a une autre Rolex à vendre. L'escroc mord à l'hameçon, il vient au rendez-vous, mais cette fois, c'est la police qui lui passe les bracelets. Arrestation, garde à vue et comparution immédiate pour cet homme de 23 ans, originaire d'Avignon, qui nie avoir payé avec de fausses pièces, précise Midi Libre. À l'audience, son avocat a plaidé non pas la Rolex, mais la Relax, en insistant sur le fait qu'il n'y a pas eu expertise des fameuses pièces qui sont censées avoir été détruites. Du coup, le juge a renvoyé toute l'affaire à la fin avril, le temps de mener un supplément d'informations pour tirer au clair cette histoire de fausses pièces d'or.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, 6h41 sur RMC.
À vous de nous dire.
Il va y avoir un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. C'est Gabriel Attal qui l'a annoncé hier. Après 2019, après la réforme de l'année dernière, il y aura donc une troisième réforme avec encore de nouvelles règles. Le Premier ministre veut notamment baisser la durée d'indemnisation, mais c'est pas tout. Écoutez, il veut aussi, dit-il, inciter à la reprise d'emploi.
Aujourd'hui, vous pouvez être indemnisé au chômage jusqu'à 18 mois. Plus que dans beaucoup de pays. J'entends aussi beaucoup de Français qui me disent que ce n'est pas suffisamment incitatif. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois, parce qu'on voit qu'il y a un effet très fort dans les 12 premiers mois, mais ça, c'est la première piste. Ensuite, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer de dire qu'il faut travailler davantage. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse? Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes. Mais on va laisser les partenaires sociaux travailler.
Bon, alors je résume. Il y a un certain nombre de pistes qui sont ouvertes. Il y a des économistes qui vont travailler. Il y a les partenaires sociaux qui vont travailler. Mais enfin, en gros, on a compris que des allocations chômage, bah, ça serait pendant moins longtemps, qu'il faudrait travailler plus longtemps pour pouvoir y prétendre, et puis peut-être des allocations qui baisseraient au fur et à mesure du temps passé au chômage. C'est d'ailleurs en réalité ce que Nicolas Sarkozy avait proposé en 2016. Alors j'aimerais qu'on en parle ce matin avec aussi les premiers concernés. N'hésitez pas à nous appeler si vous êtes au chômage ou si vous avez été au chômage. Est-ce que étant au chômage, si on vous avait dit, bah écoutez, en fait, ça va s'arrêter dans un mois, plus d'alloc, vous auriez ressenti une plus grande urgence à chercher du boulot, ou est-ce que au fond vous cherchiez du boulot quoi qu'il arrive, quelle que soit la deadline? D'abord un mot avec vous, Manu. On a quand même l'impression que ça fait plusieurs fois et qu'à chaque fois on resserre un peu plus les boulons quand même. Hein.
Oui, c'est vrai que quand on a lancé pour la première fois cette réforme de l'assurance chômage, il y avait effectivement un système français qui était beaucoup plus avantageux que dans les autres pays, et on pouvait considérer qu'il y avait une partie du chômage qui s'expliquait par ce système plus avantageux. On a quand même réduit beaucoup les écarts avec les pays étrangers, au point que on n'est jamais, par exemple, sur aucun des critères, le pays le plus généreux. Si vous prenez la durée d'indemnisation, le nombre de mois pour lesquels il faut avoir travaillé, etc.
Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été réformées par rapport aux clichés.
Après, juste pour résumer ce que dit l'Académie, quand vous jouez sur la durée d'indemnisation du chômage, ça joue effectivement sur la durée au chômage. Si on raccourcit la durée d'indemnisation, les gens reprennent un travail un peu plus vite. Ça, c'est vrai. En revanche, jouer sur le niveau d'indemnisation du chômage, ça n'a pas d'impact. Et il y a même beaucoup de travaux d'économistes qui vous disent que chercher du travail, ça coûte cher, et que vous retrouvez plus vite du travail quand
vous êtes bien indemnisé. Si vous gagnez quand même.
Donc,
encore un petit peu quand
ce
même.
Ce sont des équilibres très subtils.
Ben, vous savez quoi, on va en parler avec Rami, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Rami.
Madame, bonjour. Bonjour Rami. Monsieur le ministre.
Rami, si je ne m'abuse, vous êtes vous-même au chômage aujourd'hui. Dans quel secteur?
Dans le secteur de la logistique et transport.
D'accord, logistique et transport. Vous cherchez depuis combien de temps?
Depuis mai 2022.
Depuis mai 2022. Et
oui,
comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que vous cherchez et on ne vous répond pas, ou alors vous ne trouvez rien?
Voilà, pour être franc, franchement, je suis inscrit sur toutes les plateformes de réseau, LinkedIn, EasyWork, etc. Je postule sans cesse à des offres d'emploi correspondant à mon profil, à ma spécialité, à savoir le transport et la logistique. Mais ce qui me revient, c'est que des refus. J'ai même pas la chance de faire un entretien, en fait. J'ai que des refus, alors que j'ai une expérience au moins de 18 ans maintenant. Aujourd'hui, j'ai un CDI depuis 18 ans et je me suis fait licencier du jour au lendemain sur des CFA.
Vous aviez 18 ans d'ancienneté, vous étiez en CDI, vous avez quel âge aujourd'hui, Rami?
42, deux enfants.
Ouais, 42 ans, deux enfants. Vous touchez des allocations chômage?
Bien sûr, jusqu'à là, en fait, si vous voulez, j'ai une pathologie, il faut aussi préciser, hein. J'ai eu un grave accident dans mon ancien travail, on m'avait percuté avec un camion volontairement qui m'a rendu très dans mon dos très fragile. Donc,
d'accord.
Du coup, j'ai subi deux opérations du dos. pour des vertèbres qu'ils ont bougé. Mmh. Et j'ai retrouvé un emploi dans la logistique chez, pour pas citer Chronopost, qui était, qui ont accepté de le challenge de me prendre. Sauf que malheureusement, mon dos n'a pas tenu. La médecine du mon travail m'a rendu, m'a donné un verdict inapte. D'accord. Mais, c'est pas ça qui empêche qu'aujourd'hui, je cherche un travail vraiment, pas forcément manuel, comme je le disais à Chronopost, mais, ce que je faisais avant dans la logistique, dans le transport, dans l'affrètement, dans ce que, voilà, qui n'est pas physiquement, qui peut être diffusé pour mon dos. Mais sinon, si demain il y avait du travail, je prendrais le travail, je resterais au chômage. Je suis quelqu'un d'actif. Mais le problème, c'est que on n'accepte même pas de me recevoir. Vous comprenez ? Si j'avais pas, cette garantie de chômage.
Non, mais c'est hyper décourageant. C'est hyper décourageant. Et Rami, ça s'arrête quand normalement vos allocs ?
Ben là, septembre, c'est terminé.
Septembre, c'est terminé. Donc voilà. Ça veut dire que effectivement, le temps tourne. Vous touchez combien d'allocations chômage, Rami ?
Ben 1 700 euros. 1 700 euros, j'avais un salaire pour être brut de 3 000 euros et je me retrouve aujourd'hui. C'est normal, hein, je veux dire, on va pas vous payer de 3 000 euros alors que vous êtes au chômage. Mais je veux dire par là que si demain on retire ça aux gens qui sont au chômage.
Et on le voit bien, il est 6h47, Rami, vous êtes debout, actif, comme vous dites, vous avez vos deux enfants. Quand on écoute quand même le Premier ministre hier, c'est vrai qu'on a le sentiment que ce serait les chômeurs eux-mêmes qui prendraient le temps, quoi. En gros, quand on vous écoute, on voit bien que c'est pas le cas.
Madame Noël, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des problématiques avec l'Ukraine, etc. Il n'y a pas de problème. On le comprend, nous, les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas, on le comprend, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, si demain, je vais aller plus loin parce que faut remonter un peu en avant. Je me serais pas licencié si la loi M. Khomri ne facilitait pas le licenciement des salariés. Si vous voulez, avant, on était salariés, on pouvait être plus ou moins protégés. Mais aujourd'hui, on se fait licencier pour rien. Je vous dis, franchement, honnêtement, si vous me demandez de vous envoyer les conclusions de mon ancien salarié qui m'a licencié, vous allez dire c'est aberrant. C'est aberrant, je vous dis franchement, honnêtement, c'est aberrant qu'on licencie des gens après 17 ans de service, avoir fait des économies dans une entreprise mondiale, et on accepte de licencier comme ça, et on se retrouve livré à nous-mêmes avec nos enfants, et pas vous mentir. Moi, si vous me recevez et vous me dites de vous envoyer tous les mails refus.
L'objectif de la loi El Khomri, et ça a marché en quelque sorte, c'était justement de fluidifier ça, c'est-à-dire c'était de dire ok, simplifie le licenciement.
Fallait pouvoir retrouver
à l'époque, il y avait plein d'entreprises qui ne voulaient pas embaucher, et donc effectivement, ça a fluidifié le marché.
Et d'ailleurs, je le redis évidemment, Rami, vous avez 42 ans. Vous êtes en Seine-et-Marne, vous avez eu 18 ans d'ancienneté. Alors certes, aujourd'hui, la manutention, au sens, l'épreuve de votre dos est plus difficile, mais il y a plein de boulot dans la logistique qui pourrait correspondre à votre profil. Et j'espère, on ne sait jamais, qu'à 6h49 sur RMC, dans la grande famille aussi d'RMC, il y a peut-être un employeur quelque part qui a besoin de quelqu'un comme vous. Rami, bon courage en tout cas, merci de votre témoignage. Voilà un témoignage extrêmement concret. Il touche 1700 euros, ça s'arrête en septembre et il avait 18 ans d'ancienneté. Il y a Cyril qui est aussi avec nous et qui, lui, est pâtissier au Pertuis dans le Vaucluse. Bonjour Cyril.
Bonjour Pauline.
Cyril, vous avez entendu le témoignage à l'instant de Rami. Quand vous entendez ce témoignage-là et quand vous entendez hier le Premier ministre qui dit il faut durcir les règles de l'indemnisation chômage, votre cœur, il va où, Cyril ?
Là, j'avoue que je suis un peu entre les deux, mais pour moi, c'est sûr qu'il faut réduire les indemnités, ça c'est certain. Maintenant, Rami, lui, il est dans une situation un peu particulière, quoi, donc parce que il a une question d'invalidité, d'après ce que j'ai compris. Forcément, ça réduit le champ de possibilités des postes.
Est-ce que vous trouvez un employé, Cyril ? Parce que j'en déduis que vous êtes dans la pâtisserie, vous avez des employés ?
Alors, moi j'ai une vendeuse, deux apprentis, et puis je suis avec ma compagne. Donc
d'accord.
C'est une toute petite structure. En ce moment, l'activité commence à augmenter parce qu'on va travailler avec une entreprise. Avec une entreprise annexe qui va nous solliciter.
Ouais.
Et effectivement, je vais chercher à embaucher. Sauf que c'est cher, quoi. Les charges, c'est très compliqué, quoi. On essaye de faire un plan pour voir, mais donc je vais essayer dans un premier temps d'investir dans du matériel pour faciliter la production.
Pour pouvoir produire davantage.
Exactement. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir embaucher, mais voilà, c'est charges qui posent problème. Quoi.
Mais est-ce que vous vous dites si... Alors vous, c'est plutôt l'aspect charge, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il en a un peu parlé hier, Gabriel Attal, de la question, justement, d'un allègement plus progressif qui permettrait un peu de déscardisaser. En un mot là-dessus, Manu, cette question, justement, des charges.
Bah, l'idée, c'est de rendre plus progressive l'augmentation des charges pour éviter de prendre les gens dans le piège, finalement, des bas salaires. Parce ou de les inciter complètement, votre patron, à vous augmenter parce que ça lui coûte.
Et on sent bien, et embaucher tout court, puisqu'on le sent bien, c'est aussi la question à laquelle est confronté Cyril. Merci, Rami et Cyril, d'avoir témoigné ce matin sur RMC au 32-16. On est tous ensemble et on poursuit, bien sûr, sur cette question, ce nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. Est-ce que vraiment ça vous inciterait davantage à chercher ou à trouver du boulot? Il est 6h51.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, racontez-nous, Nicolas.
Et je vous raconte l'histoire des très surprenantes délibérations du Conseil constitutionnel dans la vieille affaire des faux électeurs de Jean Tibéri.
Et puis, on n'avait pas vous en parler, Charles.
Nos ados puent, mais ce n'est pas de leur faute.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va faire un tour sur l'appli RMC. Oui, on va parler de Kevin Le Chypre dans un instant.
Oh Dieu.
Amélie, oui, on va le
Nos
faire.
Nos ados.
Mais d'abord, priorité à vos messages, vos réactions sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Autour de la question, évidemment, de l'assurance chômage. Réduire la durée d'indemnisation, durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes d'accord, au fond, avec la méthode Attal? Nicolas nous écrit, c'est facile de s'attaquer aux demandeurs d'emploi. Voilà une catégorie qui ne manifeste pas, qui ne bloque pas la France. Il ferait mieux de s'attaquer aux employeurs qui, eux, font de la discrimination avec les plus de 50 ans. Allez trouver du boulot quand vous avez 50 ou 55 ans. Le gouvernement, tiens, ferait mieux de supprimer les départements. Voilà un échelon qui pourrait faire des économies aux finances publiques. Voilà le message de Nicolas. Vincent, lui, nous dit « Moi, je suis d'accord pour qu'on réduise la durée d'indemnisation. Mais dans ce cas-là, il faut aussi que France Travail, l'ancien pôle emploi, fasse son boulot et qu'on accélère le traitement des dossiers, qu'on ait plus de propositions quand on est chômeur. Il faut aussi nous aider à retrouver plus vite du boulot. » Vous faites comme Vincent, comme Nicolas, comme Rami qu'on vient d'entendre à l'antenne. Vous venez témoigner, vous composez le 32-16.
RMC, Apolline Matin.
6h54 sur RMC, Nicolas Poincaré.
Racontez-nous.
Alors racontez-nous, Nicolas. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire d'une bien curieuse délibération du très sérieux Conseil constitutionnel.
Oui, c'était il y a plus de 25 ans, mais on le découvre aujourd'hui grâce à l'ouverture des archives du Conseil constitutionnel et grâce à l'AFP qui s'est plongée dans ces archives. En 1997, le maire de Paris de l'époque, Jean Tibéri, qui avait succédé à Jacques Chirac, s'était fait réélire député du 5e arrondissement. Seulement quelques mois plus tard, le Canard enchaîné avait révélé une vaste affaire de faux électeurs. Jean Tibéri était accusé de domicilier des amis dans l'arrondissement et de leur proposer, par exemple, des places de crèche en échange de leur voix. Dans un immeuble qui n'existait pas, on trouvait par exemple 11 électeurs inscrits. Dans un autre qui était complètement muré, 25 électeurs. Une plainte avait été déposée par la candidate socialiste battue par Jean Tibéri. Et en février 1998, le Conseil constitutionnel devait donc se pencher sur ce dossier et décider s'il invalidait ou pas l'élection du député et maire de Paris.
Et c'est là que s'est-il passé?
Eh bien, c'est fascinant. Les archives révèlent les délibérations des sages. La conseillère d'État qui a instruit le dossier a estimé que les faits étaient délictuels, mais elle a plaidé pour la validation de l'élection. Un membre du Conseil, Jacques Robert, a dénoncé une opération de racket électorale, mais il a voté pour la validation. Le vieux gaulliste Yves Guéna trouverait normal qu'on sanctionne, mais il ne va pas le faire. Une sage qui venait de la gauche, Noëlle Lenoir, a parlé d'une fraude de grande ampleur, mais elle aussi a voté en faveur de Jean Tibéri. Un autre sage a fait remarquer que les communistes faisaient la même chose. Alors pourquoi sanctionner Jean Tibéri? Bref, à la fin, c'est à l'unanimité des neuf sages que le Conseil constitutionnel a validé l'élection du tricheur. Officiellement, le Conseil a expliqué que Jean Tibéri avait gagné avec 2700 voix d'avance et qu'il n'était pas prouvé qu'il y avait eu plus que 2700 faux électeurs.
Mais non.
Et si, c'était l'argument. Mmh. En réalité, ça montre surtout qu'il y a 25 ans, le président de la République était très très puissant. Ce jour-là, les sages avaient surtout décidé de ne pas déplaire à Jacques Chirac, l'ami de Jean Tibéri.
Mais c'est incroyable.
Ah, c'est incroyable.
Et on sent, alors j'aime bien quand il travaille comme ça, on sent que vous êtes là, hier.
Gourmand.
Ouais. On imagine hier Nicolas écrivant sa chronique avec « Oh, ah !» son ordi. C'est vrai ou pas?
Exactement.
Charles, oh, à 6h56.
Ah, Apolline Matin.
Oh, ah.
On n'a pas osé vous en parler.
Si j'ai fait oh, ah, on écrit.
Ah,
tout
moi
ça,
aussi,
hein.
J'ai fait oh, ah. Mais oui, mais moi, parfois, je fais ça quand j'écris, quand je prépare. Charles, les ados sentent le chèvre, c'est quoi cette histoire?
La chèvre, même plus précisément.
Ah, du chèvre. Oui. La chèvre, le bouc.
Non, la chèvre, le bouc, oui, aussi. Commençons d'abord par les bonnes nouvelles de cette grande étude allemande. Les chercheurs ont d'abord étudié l'odeur des nourrissons. Verdict, les bébés sentent la rose. Oui, wow. Plus précisément, les nourrissons,
quoi,
les nourrissons présentent des niveaux élevés d'une cétone au parfum fleuri et savonneux. Bon, visiblement, les
pas savonneux, oui, c'est ça. C'est
oui, les chercheurs allemands n'ont jamais changé une couche. Mais ensuite, ça se complique pour l'odeur des ados. En analysant les fragrances présentes dans leur t-shirt, les chercheurs ont noté, je cite, accrochez-vous, la présence de certains acides dont les odeurs sont semblables à celles du fromage, du moisi, de la chèvre ou encore de la prune séchée. En résumé, l'ado pue, mais ce n'est pas de sa faute. Ce sont les hormones, la puberté, il n'y est pour rien. Il ne faut pas l'excommunier pour fragrance délit, comme le titre le journal Libération. En revanche, leur apprendre quelques bons réflexes en matière d'hygiène.
Se doucher. Oui. Moi, j'offre le déodorant.
Parce qu'ensuite, ça sert toute la vie. Hein. Selon les sondages, le collègue qui sent un peu trop fort arrive largement en tête du classement des collègues les plus agaçants.
Donc, ça fait partie de l'éducation, en fait.
Exactement. Et le problème,
même de l'aide à ses enfants.
Ben non, il pue, mais du coup, c'est le moment où il faut apprendre à bien se laver.
Mais nous, on fait pareil, alors.
Oui, on pue pareil, c'est ça, exactement.
Ah oui, tu as pu à l'adolescence, oui, c'est le principe.
Ah, d'accord.
Oui. Et bon courage à 6h58 à ceux qui vont entrer dans une chambre d'ado pour
et
les réveiller.
Et on pense à tous les parents qui, effectivement, vont réveiller les ados. Oui. 6h58 sur RMC. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.